Or déjà la fête était dans ce milieu, il monta Jésus vers le temple. Monter vers le temple, ça veut dire entrer en communication, en communion avec Dieu. Il montait vers le temple déjà au chapitre 2, verset 16, lorsqu'il va purifier le temple. Et il enseignait. Donc Jésus se manifeste à Jérusalem comme l'enseignant, le maître de sagesse. Il s'étonnait donc les Juifs, disant comment celui-ci s'est pris des lettres, ne se trouvant pas à voir. Donc voilà quelqu'un qui est un peu en dehors de la tradition de Jérusalem. D'ailleurs, les maîtres de Galilée marquaient leur distance par rapport à ce qu'on enseignait à Jérusalem. Vous savez que on vous a dit, moi je vous dis, et c'est une parole que l'on retrouve avec des variantes chez quelques maîtres galiléens. Donc vous avez à Jérusalem, moi je vous dis, c'est-à-dire les rigoristes ou les intégristes disent ça à Jérusalem. Tandis qu'en Galilée, on est quand même un peu plus ouvert. Mais Jésus le dit bien sûr dans un autre sens. Alors, comment celui-ci s'est-il fait? Vous voyez, il faut avoir appris, il faut avoir, fait tout son écolage de théologien pour pouvoir parler. Et Jésus va leur dire quelque chose de très différent. Non, il n'y a pas que cette compétence-là qui existe. Il y a la compétence qui nous est donnée de l'intérieur par la présence de Dieu. Il leur répondit donc, Jésus dit, « Mon enseignement n'est pas mien, mais il est de celui qui me manda. » Pourquoi dit-il cela? Parce que justement, à un rabbin, on demandait toujours, « De quelle école es-tu ?» Et on jugeait le rabbin d'après le chef d'école qu'il avait eu. Paul dit lui-même, il a eu Gamaliel comme maître. Ah, devant Gamaliel, on tire son chapeau. Ça, c'est une autorité. Alors, comme Jésus n'a pas fait son école, son université à Jérusalem, de qui se réclame-t-il? Il dit, il n'est pas bien. Donc, il commence par dire, je suis dans une tradition. Et cette tradition est celui qui m'a envoyé. Mais cette tradition remonte à bien plus haut qu'une école théologique. Si éventuellement quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra au sujet de l'enseignement si des deux, il est des dieux, ou bien si à partir de moi je parle. Donc, comment pouvez-vous discerner l'authenticité d'un enseignement? Par la familiarité que vous avez avec Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit. Si vous connaissez bien Dieu, vous reconnaîtrez l'enseignement de Jésus. C'est un critère difficile à manier, vous voyez, parce que ce n'est pas un critère extérieur, et on ne se met pas des points. Et ce n'est pas un certificat ou un diplôme de quelque école théologique qui soit. Celui qui parle à partir de soi-même recherche sa gloire propre. Celui qui cherche la gloire de celui qui le manda, celui-ci est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Donc quel est le critère d'authenticité? C'est vraiment la tradition. C'est de ne pas innover à partir de soi-même. Mais quel est le critère de l'authenticité radicale? C'est d'être immédiatement dans la tradition de Dieu. Donc, d'être passé par le moins d'intermédiaires possible. Or, quel est celui qui se trouvait le plus proche de Dieu? Ben, c'est Moïse. Alors, voyez, Jésus va se couler dans la tradition de Moïse, mais encore plus haut que lui, en quelque sorte. N'est-ce pas que Moïse vous donna la réponse? Bien sûr. Et personne parmi vous ne l'a fait. Pourquoi? Parce que vous voulez me tuer. La loi est œuvre de vie. Or, moi, qu'est-ce que je fais? Je remets les gens en vie. Tout ce qu'il a dit jusqu'ici, dans son enseignement, ou dans les rencontres, c'était donc de faire passer la vie, de l'eau vivante, la vie éternelle, remettre quelqu'un debout, le faire vivre. La foule dit, tu as un démon. Qui cherche? Ça ne leur va pas. Pourquoi ? Parce que Jésus leur reproche quelque chose. Nous sautons tout de suite sur le reproche. Nous sommes exactement comme les Juifs. Je dis, bon, ça va très bien, bon, j'ai quelque chose contre toi. Et quand Jésus nous dit cela, c'est pour nous faire avancer. Mais nous prenons la mouche, comme nous disons. Et tout de suite, on réagit avec agressivité. Mine de rien, c'est extrêmement psychologique, ça. Oui ?
On ne peut pas sortir que dans plusieurs passages de temps, Jésus, il va quand même très fort, et qu'on a l'impression que parlant et exact, il doit susciter le supérieur. Il n'est pas violent. Et il va même peut-être un peu trop vite, peut-être par l'essentiel pour lui.
Mais ça, c'est l'évangile de Jean. Tu as raison.
Il n'a pas peur du tout.
Non. Ah non. C'est-à-dire, même, il suscite, il provoque l'agressivité. Il provoque la réaction. Mais il ne faut pas oublier, et beaucoup de commentateurs ont dit cela, il ne faut pas oublier que Jean, normalement, parle, écrit son évangile, bon, en tout cas le rédacteur définitif, vers les années, en tout cas, après la chute de Jérusalem, donc vers les années, c'est entre 80 et 100. 98, 99, quelque chose comme cela. C'est-à-dire en pleine période où la communauté juive restée juive et la communauté juive devenue chrétienne sont en opposition. Et beaucoup pensent, c'est évidemment pas prouvé, hein, c'est une hypothèse, mais beaucoup pensent que justement cette opposition, cette altercation qui arrive constamment chez Saint Jean est l'écho des divisions qui existaient entre les deux communautés. C'est possible. De plus, Jean arrive de toute manière après les autres évangiles. Et il peut, il dirait presque, avoir quelque chose de plus radical. C'est exact, c'est tout ça. Il va d'ailleurs s'expliquer là-dessus, Jésus, hein, le Jésus de Saint Jean, il va s'expliquer là-dessus au chapitre 8e. Elle répondit, la foule, tu es un démon, qui cherche à te tuer. Jésus dévoile une intention qui n'est pas encore manifeste. Jésus répondit, eh bien, j'ai fait une seule œuvre, et vous vous étonnez. La seule œuvre qu'il a faite, c'est la guérison, comme nous le disions tout à l'heure, la guérison du paralytique. En raison de ceci, Moïse vous a donné la circoncision. Donc Moïse, de Moïse, elle est, il n'a pas inventé lui-même, mais des pères. Et en sabbat, vous circoncisez un homme. Donc il revient à l'altercation à propos du sabbat au chapitre 5e. Vous vous plaignez de ce que j'ai guéri le jour du sabbat. Mais vous, qu'est-ce que vous faites le jour du sabbat ? Bien, vous dites qu'on peut circoncire un enfant le jour du sabbat. Bien que la circoncision soit considérée comme une œuvre servie. Mais pourquoi la loi du sabbat cède-t-elle devant la loi de la circoncision ? Mais parce que c'est intégrer un homme, une personne, dans la communauté juive. C'est-à-dire le faire vivre. La circoncision fait vivre quelqu'un de la vie de Dieu. Puisque c'est l'agrégation, c'est le signe de l'agrégation. Par une purification du membre qui donne la vie, c'est une agrégation au peuple d'Israël. Et la circoncision est regardée comme une deuxième naissance. Je suis né du ventre de ma mère et je suis né à la communauté juive. Je suis né comme homme, je suis né à la communauté juive comme juif le jour de ma circoncision. Notez que cette symbolique est reprise dans le baptême. Et sous-jacente à l'histoire de Nicodème. Nicodème sait bien aussi que la circoncision est considérée comme une sorte de création, de renaissance. Alors, c'est pas Moïse qui vous l'a dit, ça vient de plus loin que Moïse. Donc, c'est plus. Voyez ce qu'il dit. Elle est plus fondamentale que la loi de Moïse. Comme si la circoncision était avant le sabbat. Donc elle est plus ancienne. Eh bien, moi, ma doctrine est encore plus ancienne. Parce qu'elle vient de Dieu lui-même. C'est ce type de preuve-là qu'il utilise. Déjà Moïse a dit, mais devant la circoncision, les lois du sabbat cessent. Pourquoi ? Parce que la création est avant la loi. Et un homme peut être circoncis le jour du sabbat, et cependant la loi de Moïse n'est pas déliée. On passe outre. Et vous, vous êtes milieu contre moi, vous vous fâchez contre moi, parce que moi, j'ai pas seulement rendu saint le membre qui donne la vie, mais j'ai rendu saint un homme tout entier, je l'ai créé. Et alors vous m'en voulez à cause de ça. Ne jugez pas selon l'apparence, mais le juste jugement, jugez-le. Donc il les invite à faire un discernement juste, pas selon ce que vous pensez. Alors certains parmi les Jérusalémites, c'est-à-dire les habitants de Jérusalem, disaient, mais est-ce que celui-là n'est pas celui qui cherche le Dieu ? Une sorte de contradiction dans les gens. Il parle librement, et il dit des choses quand même intéressantes sur la loi. Et pourtant, certains disaient qu'on les cherchait à tuer. Et voici, en public, il parle, et ils ne lui disent rien, et on le laisse causer. Est-ce que vraiment, les chefs l'ont reconnu que celui-ci a tué ? Il se fie aussi à une tradition. Et cette tradition est représentée par les notables, par les grands prêtres, normalement, par le Sanhédrin. Mais est-ce que ceux-là, puisqu'on le laisse parler, est-ce que ceux-là ont quand même reconnu qu'il est le Christ ? Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Il vient de Galilée. Or le Christ, quand il vient, personne ne connaît d'où il est. Ils expriment ici une tradition, disant que quand le Messie viendra, on ne sait pas d'où il sortira, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera rattaché à la descendance d'Aïe. Ce sera une sorte de moyen de l'authentifier. Alors, vous avez un moment de révélation de Jésus. Il cria donc dans le temple Jésus, enseignant et disant, « Moi-même, vous me savez et vous savez d'où je suis. Et à partir de moi-même, je suis parmi. » Au fond, votre agressivité vient du fait que vous ne voulez pas me reconnaître pour ce que je suis. Quand quelqu'un est trop fort pour nous, ou bien quand quelqu'un manifeste trop profondément sa radicalité, nous avons envie de le rejeter. Mais il est véridique celui qui me manda, et c'est vous, et c'est lui que vous connaissez. Vous ne voulez pas le reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître que je suis exactement le Fils du Père. Et vous voyez, ça, c'est un petit peu toute la difficulté qu'il y a eu dans le judaïsme de la contemporaine de l'Église primitive, pour reconnaître Jésus comme authentique Fils du Père. Est extrêmement difficile. Et c'est aussi difficile pour nous. Parce que quand nous essayons de nous demander très, très franchement, très profondément, est-ce que pour moi, Jésus est vraiment le Fils de Dieu ? Comment est-ce que je le considère ? Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est d'abord un homme, et un homme d'autrefois. Un fondateur de religion, quelqu'un qui a donné un message qui a une valeur spirituelle éminente, mais nous avons du mal à nous dire ou à nous figurer, cet homme est Dieu, est Dieu. Ou bien nous le considérons comme Dieu, mais pas vraiment comme un homme. Ça, c'est plutôt dans l'imagination. nous imaginons Dieu et nous le reconnaissons toujours comme plus qu'un homme. C'est extrêmement difficile de mettre les deux choses en nous. Et personne ne se donne la nature. Et ils expriment bien par là, on veut l'arrêter, mais on ne parvient pas à saisir. Il dépasse toujours celui qui veut l'arrêter. Et alors il dit, mais parce que elle n'était pas venue son heure. Il parlait du moment qu'il n'était pas venu dans le premier paragraphe, maintenant il parle de son heure n'est pas venue. L'heure de Jésus est déterminée, non pas par lui-même, ça c'est un discernement que lui-même peut faire, ça c'est le kairos, le moment, tandis que l'heure est déterminée par son maître. Vous voyez, c'est pas un moment. L'heure, c'est vraiment une situation. Cette situation est provoquée, en quelque sorte, par le paroxysme de l'opposition. Mais elle dépend de Dieu. Troisième volet de ce chapitre, le dernier jour de la fête. Or, de la foule, beaucoup crurent vers lui. Voilà la conclusion. C'est-à-dire que ce que Jésus dit devient une sorte de critère de la foi. Certains disaient, le Christ, quand il viendra, est-ce qu'il fera pas, qu'il pourra faire de plus nombreux signes que celui-ci? Donc, il pourrait bien être vraiment le Christ. La question que posait déjà la Samaritaine. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ça ne serait pas le Christ? Alors, ils évaluent. Dans la foule, beaucoup crurent. Remarquez bien, beaucoup crurent. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, est-ce qu'il fera plus de signes que celui-ci? Les pharisiens entendirent, les pharisiens, c'est quand même l'intelligentsia, c'est un peu celle qui a la compétence religieuse. La foule murmurant ceci à son sujet, ils envoyèrent les grands prêtres et les pharisiens, des hommes de service pour qu'ils l'arrêtent. Donc il y a une décision. Et pour eux, la décision peut être de bonne foi. Il faut l'arrêter parce qu'il est en train de dire des choses, à se mettre en évidence, si vous voulez, de dire des choses qui ne sont pas justes. Il est en train d'outrepasser ses droits. Et comme les grands prêtres et les pharisiens, ce sont les régulateurs, les gardiens de l'orthodoxie, ils font ce qu'il faut, c'est-à-dire envoyer des gens du temple, puisqu'il enseigne dans le temple, il est donc sur le territoire qui appartient aux grands prêtres, donc ils envoient un homme de service pour l'arrêter, là, sur l'esplanade, sous le portique de Salomon, semble-t-il. Il dit donc Jésus, encore un petit temps je suis avec vous et je pars auprès de celui qui me mandera. Voilà que Jésus montre la fragilité de sa vie. Il vient de dire je viens du Père et maintenant il dit je vais vers le Père. Donc ma trajectoire dans le monde a un sens bien particulier. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et ça, c'est tout le thème du chercher-trouver, que vous découvrez dans le Cantique des Cantiques, qui est constant, mais qui se trouve chez les prophètes, qui se trouve dans les psaumes. Cherchez Dieu. Et Dieu se laisse trouver par des gens qui ne le cherchaient pas. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, moi, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que c'est ce lieu où Jésus se situe et où on ne peut pas venir? Comprenez bien que ce n'est pas un lieu géographique. Le lieu où Jésus se situe est à une profondeur, ou à une hauteur, si vous voulez, insoupçonnée, inouïe. Ils dirent donc les Juifs, à l'adresse les uns des autres, « Où celui-ci va-t-il faire route que nous ne le trouverons pas ? » Est-ce qu'il va faire route vers la dispersion des Grecs et enseigner les Grecs? Une question qu'on peut se poser. Un rabbin qui trouve qu'il n'a pas le succès qu'il attendait à Jérusalem, ben il va ailleurs. faites Paul, on va faire ses écoles à Jérusalem, et puis, il va aller, mais on va le mettre ailleurs. On va le mettre à Tarsus, d'où il venait. Quelle est cette parole qui dit, vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je suis moi, vous ne pouvez venir. C'est une parole à notre adresse. Où Jésus se situe. Et est-ce que je découvre Jésus comme le transcendant, celui qui est inaccessible? Je ne peux pas chercher Jésus dans tel endroit plus que dans tel autre, je puis me laisser trouver par lui. Mais pour cela, il faut que je sois ouvert à sa réalité. Or, dans les derniers jours, le grand de la fête, Jésus se tenait debout et il cria, deuxième fois, disant, si éventuellement quelqu'un a soif, qu'il vienne auprès de moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Selon ce que dit l'Écriture, des fleuves de son ventre couleront sur lui. Cette phrase, évidemment, prend du sens à partir du rite que je vous ai dit tout à l'heure. On allait chercher de l'eau, on la versait sur l'autel du temple. Les pères de l'Église qui ont maintes fois commenté ce texte le coupent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous le lisez comme je l'ai lu, si éventuellement quelqu'un a soif, qu'il vienne auprès de moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Ouais, point d'exclamation. Et puis, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves de son ventre couleront d'eau vive. Cela veut dire, eh bien, si quelqu'un vraiment a soif, si quelqu'un sent en son cœur une aspiration profonde, une aspiration intérieure, qu'il vienne vers moi, et il peut boire. Moi, je lui donnerai à boire. Je le comblerai, comme à propos de la Samaritaine. Et alors, il citerait un texte qui n'est pas clair, on ne sait pas à quoi Jésus fait allusion. Selon ce que dit l'Écriture, des fleuves de son ventre couleront d'eau vive, son ventre, c'est Jésus, bien entendu. Dans cette acception-là, Jésus parle de lui-même. Et les commentateurs voient là une sorte d'annonce de ce qui va se passer à la croix, où du côté percé de Jésus va sortir du sang et de l'eau. C'est une manière d'expliquer les choses. Mais un certain nombre de pères d'Église, dont Augustin notamment, coupent le texte un peu autrement. Ils disent, si éventuellement quelqu'un a soif, qu'il vienne auprès de moi et qu'il boive. Point. Le croyant va venir s'abreuver auprès de Jésus. Et puis, la phrase reprend. Celui qui croit vers moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves de son ventre couleront d'eau vivante. Alors, le ventre, ce n'est plus celui de Jésus, c'est celui du croyant. Alors, que vous le preniez dans un sens ou dans l'autre, ou bien c'est Jésus lui-même qui devient celui qui nous donne vraiment à boire, la vraie vie, ou bien, c'est le croyant qui reçoit de Jésus la vraie vie et qui la donne, en seconde instance, si vous voulez, à ses contemporains. Le problème est évidemment de savoir sur quel texte de l'Écriture Jésus se base-t-il pour dire cela. Alors, bien sûr, que les différents commentateurs vont aller voir dans leur mémoire, bien sûr, et dans les concordances, pour aider leur mémoire, bien sûr, les disquettes actuellement, ils sont allés voir, ils se sont demandé, tiens, Est-ce qu'il ne s'agirait peut-être pas du chapitre 55e d'Isaïe ? Vous qui êtes altérés, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, chapitre 55 d'Isaïe, au début, même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez du blé consommé sans argent et sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain, votre salaire, pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi, et vous mangerez de bonnes choses. Vous délecterez le mets succulent, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Il y a des mots, évidemment, qui sont repris dans la phrase de Jésus, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Pas d'autre chose que de l'eau. Alors, on a été voir ailleurs. Et on s'est dit, tiens, il y a au début du livre des Proverbes, c'est quelque chose qui n'est pas bête, qui va tout à fait dans ce sens-là. Tout au début du livre des Proverbes, au chapitre 1er, et voici ce qu'il trouve, donc c'est la sagesse qui invite elle-même. Il y a toujours cette idée de la sagesse. La sagesse qui, par les rues, a écrit, encore un mot intéressant, sur les places publiques, elle élève la voix, c'est au premier chapitre du livre des Proverbes, au verset 20 des suivants. À l'angle des carrefours, elle appelle, aux portes de la ville, elle prononce un discours. Jusque à quand, aux simples, aimerez-vous la simplesse, et les railleurs se plairont-ils à la raillerie, les insensés haïront-ils le savoir ? Et ils font une sorte de comparaison entre ce texte et ce que dit Jésus, lorsqu'il invite à comprendre, à découvrir le sens de son discours. Convertissez-vous à mes exhortations, pour vous, je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes dires. Puisque j'ai appelé que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la main sans que nul n'y prenne garde, puisque vous avez négligé mes conseils, que vous n'avez pas voulu de mes remontrances, à mon tour de votre détresse, je me rirai, etc. La situation est intéressante, parce que la sagesse parle dans une situation d'opposition. Et c'est bien cela qu'un certain nombre de théologiens, d'exégètes ont vu. Mais il est évidemment un texte encore plus intéressant. Et d'autant plus intéressant qu'il était utilisé par la liturgie même de la fête des tentes au moment où on allait puiser l'eau et on la répandait sur l'autel. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Vous savez, toute la fin du livre d'Ézéchiel est une sorte de description idéale du temple. Temple qui devrait être reconstruit, mais temple avec toute une signification spirituelle. Or, précisément, au chapitre 47e, et c'est le texte qui va être utilisé dans la liturgie juive. Oui, tout à fait. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait dessous le seuil. J'ai vu l'eau sortir dessous le seuil. On s'est repris dans l'Apocalypse au chapitre 22. Ézéchiel 47, le début du chapitre. Il me ramena à l'entrée du temple. Or, nous sommes à l'entrée du temple. Et nous savons que le temple, c'est Jésus. Son corps. Alors, ceci va être un des textes que Saint Augustin, mais d'autres avant lui et d'autres après lui, ont commenté dans le sens du Sacré-Cœur, précisément. Reprenant, chapitre 19e. Vidiaquam, qui est encore utilisé comme l'hymne de la bénédiction au début de l'assemblée, de la célébration, au moment de Pâques. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait dessous le côté droit du temple, au midi de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional, me fit faire le tour de l'extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait à la main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Vous voyez, la source du temple devient une eau débordante. Une image un peu fantasmagorique, bien sûr. Une vision. Alors il me dit, as-tu vu, Jésus? Ah, c'est toujours chez Ézéchiel, il voit des choses, et puis on explique. C'est lui qui pose toujours l'explication. Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Donc cette eau va devenir une source de fécondité. Vous voyez pourquoi on utilise ce texte justement à la célébration de la fête des tentes. Fécondité pour l'an prochain. Mais l'homme, en même temps, désigne aussi l'homme. L'arbre désigne l'homme. Il y a des arbres. Donc c'est une eau qui fait grandir les hommes. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Arava. Et l'Arava, c'est une plaine sèche et salée. Et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Au lieu de devenir salines, les eaux se purifient. Donc la source du temple est capable de purifier, au fond, pratiquement toute l'humanité. Jésus, source nouvelle du temple nouveau, est capable de purifier toute l'humanité. Et souvent, les pères de l'Église ont pris ce texte comme un symbole baptismal. Et ce texte a fonctionné, encore, comme un texte cité donc, dans une célébration de baptême. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, des filets seront tendus. Les poissons seront de même espèce que les poissons de la Grande Mer. Et très nombreux, la Grande Mer, c'est la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sein. Ce qui veut dire qu'il y a toujours du résidu, il y a toujours du déchet. Dieu purifie, mais il reste du déchet, il reste des scories, en quelque sorte. Ça n'a rien, ça. Les choses qu'on jette à la poubelle, c'est fini. Ce sont des couleurs avec racines dedans. Mais il y a une chose qui vit, et ça c'est important. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Donc ce n'est pas seulement une source universelle, mais c'est une source à travers tous les temps, mais bien éternel. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Et les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Ça va très bien, c'est un beau texte qui manque seulement. Tous les textes que vous trouvez dans l'Écriture manquent toujours quelque chose. La sagesse appelle, elle dit venez à moi, et je vous ferai vivre. Ça va très bien. On ne parle pas de ventre, ni d'un côté ni de l'autre.
L'agneau d'Apocalypse, malgré tout.
Ah oui, mais c'est justement le même genre.
là où il est, il tournerait le dos, paraît-il, à la source de Siloé, la fontaine de Siloé.
Pas exactement. Tandis que le juif, nous avons du mal à être dépassés parce que nous voulons tout ramener à ce que nous connaissons. Or, justement, Jésus va le dire un peu plus loin, la liberté, c'est de reconnaître qu'on est dépassé et de recevoir de l'être comme de grâce. Jamais ne parla ainsi un homme comme par cet homme. Et qui est-ce qui le reconnaît? Les hommes de service. Les gardes, les grands, les notables, tous ceux qui devraient pouvoir juger, ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils se butent à leur connaissance, leur propre connaissance. Ils leur répondirent donc, les pharisiens, est-ce que vous aussi vous avez été égarés? Est-ce que quelqu'un d'entre les chefs a cru en lui ou d'autres des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Oui, les simples, ils sont là parce qu'ils ne connaissent pas, hein. C'est un manque de connaissances, ils n'ont pas fait leurs lettres. Jésus, non, il connaît. Il dit Nicodème. Et voilà. Pourquoi Nicodème vient-il ici? Mais parce qu'il y a eu un contact profond avec Jésus. Et chose curieuse, ce contact profond, c'est au sujet de l'esprit et de l'eau. C'est pas pour rien du tout que Nicodème intervient. Celui qui était venu auprès de lui en premier lieu, l'un prit parmi eux, et lui que fait-il? Est-ce que votre loi juge l'homme et si éventuellement il ne l'entende d'abord de chez lui et ne connaisse ce qu'il a fait? Donc, vous préjugez, vous jugez avant de l'avoir entendu, vous l'entendez avec votre oreille à travers ce que vous pouvez entendre. Il répondit à lui dit, c'est évident cela. Est-ce que toi aussi tu es de la Galilée? Mais scrute et vois qu'un prophète, il n'y a pas qu'un. Voilà les évidences auxquelles ils se butent. Et ils ne veulent pas être dépassés dans leurs évidences. Alors que Jésus se présente comme une personne, eux, ils restent attachés à leur croyance. C'est exactement comme nous. Oui, mine de rien, il fait notre procès. Comment considérons-nous Jésus? Est-ce que nous le considérons comme le Fils du Père? Ou bien est-ce que la manière de faire notre théologie est plus importante que lui? Oui, c'est une sorte de mise en question théologique à partir d'un contact intime et profond avec Jésus. Le seul, bon, il y a des gens qui voient clair, hein? Il y a des gens qui se convertissent et qui se mettent à croire, il y a ceux qui sont envoyés pour l'arrêter et qui ne l'arrêtent pas et qui viennent chercher à rendre témoignage pour lui, et puis il y a Nicodème, on entre de plus en plus dans le milieu parisien. D'abord des gens de Jérusalem, puis des gens qui ont été envoyés pour l'arrêter et qui sont au service des grands prêtres, et puis même un parisien. Donc, à l'intérieur d'une incroyance, une foi est en train de se faire. Donc, à l'intérieur de vos difficultés à croire, de nos objections, de nos agressions, il y a une foi qui chemine. De son sein couleront des sources d'eau vive, l'esprit et les jambes. Voilà, nous verrons cet après-midi. Comment on est en route dans le chapitre 8 et
mercredi après-midi, chapitre 8, 2h. Bon.
Alors, nous allons reprendre avec la femme adulte. Je ne dis pas comme un de nos anciens professeurs qui disait justement à propos de la femme adultère dans le cours sur Saint-Jean, il disait, pour ce qui est de la femme adultère, vous la verrez en particulier.
parce que j'ai pensé que c'était pas assez quoi, Michel. Non, ouais, mais tout le monde avait compris comme vous, hein.
C'est tardi.
L'apéricope, exactement, c'est vous, c'est l'apéricope de la femme adultère, vous la verrez en particulier. Et les gens n'avaient pas compris péricope.
C'est un sobriquet.
Et il route chacun vers sa maison. Or Jésus fit route vers la montagne des Oliviers. Or de nouveau, à l'aube, il se rendit vers le temple. Vous voyez, on n'a pas parlé, Saint Jean n'a pas parlé du mont des Oliviers.
C'est typiquement joannique. Oui. Des oliviers,
oui, mais ça, Saint Marc aussi, et Saint Matthieu aussi, il y a toujours ce va-et-vient, et Luc le reprend. Et c'est plutôt le camion ici, comme De nouveau à l'aube, il se rendit vers le temple, et tout le peuple venait auprès de lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et il semble bien que ces deux versets soient une attache rédactionnelle, comme on les appelle. Et voilà qu'au verset 3 commence le véritable récit. Or, ils amenaient les scribes et les pharisiens, alors je fais quelque chose de nouveau, les scribes, Jean n'en parle pas, il parle des pharisiens, il ne parle pas des scribes, il parle des grands prêtres et des pharisiens souvent, les scribes et les pharisiens, une femme se trouvant prise en adultère et la plaçant au milieu, comme Jésus fait pour le petit enfant, ils lui disent, maître, cette femme a été prise en flagrant délit comme étant l'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous donne à ordre de lapider de telle femme. Toi, que or, il disait ceci, le tentant, afin qu'ils aient à l'accuser. Donc, il nous dit aussi qu'il y a, mais ça c'est une phrase que vous retrouvez chez les synoptiques, il le tentait en vue de l'accuser, dans les controverses à Jérusalem. Or, il disait ceci, le tentant, afin qu'ils aient à l'accuser. Or, Jésus, s'étant courbé en bas du doigt, il écrivait vers la terre. On ne vous dit pas ce qu'il écrivait. Alors là, l'imagination des exégètes et des auteurs spirituels va bon train. Est-ce qu'il écrivait quelque chose? Est-ce qu'il écrivait le texte de la loi? Est-ce qu'il dessinait simplement par terre? Or, comme il demeurait encore interrogeant, ils insistent, il se redressa. Et il leur dit que celui qui est impeccable, littéralement, d'entre vous, le premier sur elle qu'ils éduquèrent. Et de nouveau, s'étant courbé vers le bas, il écrivit vers la terre. Or, ceux qui entendirent sortirent. Hein? Voilà. Commençant à partir des anciens. Et certains manuscrits jusqu'au dernier. Ils en vont tous. Et c'est intéressant ce jusqu'au dernier. Et il fut abandonné. Seul, Jésus et la femme étant au milieu. Intéressant de voir la femme est au milieu. Donc le texte veut bien nous dire, regardez-la, c'est elle qui est la leçon du passage.
Ça devient un cours particulier.
Voilà. Là, si vous pouvez la voir en particulier, Jésus l'a fait. Or, se redressant, Jésus lui dit, femme, où sont-ils? Personne ne te condamna? Personne, Seigneur. Or il dit Jésus, moi non plus. Je ne te condamne pas. Fais route et à partir de maintenant, ne pêche plus. Donc voilà le texte avec le texte jusqu'ici, depuis 7.53 jusqu'à 8.11, qui semble être repris de l'évangile de Luc, semble-t-il, ou d'une tradition de Luc,
Car c'est ce passage-là exactement, entre 753 et 811, qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits, mais qui ne se trouve qu'à partir du IIIe siècle. Mais je continue, parce que il faut le lire bout à bout avec le reste. De nouveau donc, parce qu'il y a le de nouveau, on voit bien qu'on reprend le de nouveau à l'aube, de nouveau au verset 8, de nouveau au verset 12, mais c'est de nouveau ensuite en cascade. Jésus leur parla, disant, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. On revient au problème. Je lui dis donc le pharisien, toi, tu portes témoignage au sujet de toi-même. Ton témoignage est pareil. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis le plein essence du ciel. Moi, je suis la lumière. Ton témoignage n'est pas pareil. Et puis, Jésus, il leur dit, même si éventuellement, moi, je porte témoignage au sujet de moi-même, vrai est mon témoignage. Ah, c'est donc que je ne suis pas seul. Parce que je sais d'où je viens et où je pars. Or vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je pars. Autrement, d'une autre manière de dire, moi je suis libre, vous, vous n'êtes pas libre. Savoir d'où on va, d'où on vient et où on va, ça veut dire être libre d'avoir ses allées et venues, comme nous disons. Hein. Une manière moderne de dire, je sais d'où je viens et où je pars. Vous, selon la chair, vous jugez. Moi, on apprendrait, je juge selon l'esprit. Hein. Moi, je ne juge personne. Et si éventuellement je juge, vous voyez, ça c'est joli. Je ne fais pas, mais si je fais. On ne reçoit pas, mais je reçois. Et si éventuellement je juge moi, le jugement est...